Bonne soirée. Et cours! Wow!
Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
Bonne fin d'après-midi. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au réseau Cogeco pour la présentation de cette autre édition de prolongation samedi le 17 octobre. La tempête est passée dans la Ligue nationale après la séance de repêchage, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Les choses se sont un peu plus stabilisées au cours des derniers jours, ce qui nous a permis d'y aller de certaines évaluations, notamment chez le Canadien de Montréal. Il y a des dossiers très importants qui ont été réglés, dont le dossier de Brendan Gallagher. Ce sera bien sûr au menu de notre émission. Un propriétaire, Monsieur Foley, le propriétaire des Golden Knights de Las Vegas, s'échappe et dévoile une partie du plan pour la saison 2021 de la Ligue nationale. Il y aurait une division uniquement canadienne, tandis que les équipes américaines demeuraient de leur côté. On va en parler bien sûr avec Ray Lalonde, notre spécialiste en business du sport et en marketing du sport dans la deuxième heure de notre émission. Il sera également question de l'actualité dans la Ligue nationale. On reviendra sur le dossier de Marc-André Fleury, qui a été l'invité de Jérémy Rainville cette semaine à Bonsoir les sportifs. Encore beaucoup de doutes sur les réelles intentions des Golden Knights en ce qui a trait au futur de Marc-André Fleury. On va également essayer d'explorer ce qui se passe et ce qui s'est passé dans les derniers jours dans la LNH. Il y a aussi d'autres clubs qui ont ajouté des joueurs et qui ont tenté de colmater des brèches. J'accueille tout de suite celui qui présente l'émission avec moi comme à tous les samedis. C'est Danny Dubé. Bonjour Danny.
Salut Martin.
Danny, le Canadien a conclu une entente d'une prolongation de 6 ans avec Brendan Gallagher qui va lui rapporter 39 millions de dollars. C'est un salaire annuel de 6,5 millions. Mm-hmm. Ça fait de Brendan Gallagher l'attaquant le mieux payé du Canadien. Je pense qu'il n'y a personne qui est surpris par les chiffres. Il n'y a personne non plus qui est surpris par la longueur du contrat.
Absolument pas. Écoute, même s'il y a de la réticence au niveau de la longueur du contrat, c'est toujours la même chose. Les gens disent « Ouais, mais comment ça que c'est si long un contrat? » Écoute, le joueur représente tout ce qu'on veut avoir du Canadien de Montréal. Passion, détermination, ardeur au travail, fierté, sens de compétition. Alors, et évidemment, tu donnes un plus long contrat et habituellement, il y a peut-être un peu de lourdeur qui s'installe à la fin de ce contrat-là.
Ça va l'amener à son 35e anniversaire de naissance, ouais. Dernier, à la fin de la saison 26-27.
C'est pas un patineur naturel, c'est un travailleur naturel et acharné. C'est un gars qui prend beaucoup de coups. C'est un peu ce qui est remis en perspective par les gens du milieu. Mais quoi qu'il en soit, le Canadien vient de faire un très, très bon coup. Je pense qu'on ne pouvait pas continuer la route sans avoir Gallagher à bord.
Le directeur général du Canadien a tenu un point de presse jeudi. Il a été très émotif, au moins à 3 reprises. Là, il a eu le trémolo quand il a parlé de Gallagher. Il a parlé de lui comme un joueur spécial, un joueur très spécial. Et je pense que le plus grand compliment qu'il lui a fait en tant qu'ancien joueur, Danny, Marc Bergevin a dit « J'aurais adoré jouer avec un joueur comme lui ». C'est peut-être le plus grand des compliments que Bergevin lui a fait quand on se place dans les culottes d'un joueur de hockey.
Oui, écoute, la reconnaissance de ses pairs, c'est ce qui est le plus puissant. Et évidemment, Marc Bergevin fait pas partie de cette catégorie-là puisqu'il est retraité, mais ça vient d'un vétéran, d'un joueur qui a passé beaucoup d'années dans la Ligue nationale. Et évidemment, ceux qui le connaissent savent que Marc Bergevin, c'était un bon coéquipier. C'est un gars qui était justement apprécié de ses pairs pour son courage et sa détermination. Donc, encore une fois, c'est le genre de choses que c'est le genre de commentaires que tu réserves. C'est ta parcimonie que tu vas l'offrir. Tu l'offres à des joueurs qui le méritent. Et je pense que Gallagher fait partie de cette catégorie bien spéciale.
On va réentendre l'un des points qu'a soulevé Marc Bergevin lors du point de presse qu'il a tenu au lendemain de la conclusion de l'entente contractuelle avec Brendan Gallagher sur le fait qu'en 8 ans, Brendan Gallagher a été un employé modèle chez le Canadien. Il ne s'est jamais plaint et a jamais placé ses propres intérêts avant ceux de l'équipe.
Le nombre de buts que Garly marque 5 contre 5 est vraiment bon. Puis c'est difficile aujourd'hui à marquer... À 5 contre 5, alors c'est certain que c'est juste des statistiques, mais à la fin de la journée, ce qu'il amène comme joueur. En 8 ans ici à Montréal, jamais, mais au grand jamais, Brandon Gallagher s'est plaint de quelque chose que ce soit. Puis quand ça va pas bien, c'est la première personne qui regarde dans le miroir, c'est lui. C'est pas son coéquipier, c'est pas l'instructeur, c'est pas personne d'autre que Brandon lui-même. Alors cette valeur-là est pour moi est puis il y en a pas beaucoup de joueurs comme ça. Puis on est chanceux, c'est pas le seul ici à Montréal. Moi, depuis ma première journée comme DG à Montréal, je le regarde performer, puis je suis fier de l'avoir ici.
Danny, sa production à 5 contre 5, tu as souvent parlé dans nos reportages lors des matchs de hockey, les avant-matchs, que la qualité de Brandon Gallagher, c'est de marquer des buts en fin de période, des buts en début de période. Ouais. Il a, à maintes et maintes reprises, dans des matchs que le Canadien a gagné, il a été le premier, celui qui lançait le Canadien en avant. Et quand on considère que le Canadien a été assez juste en production offensive ces dernières années, ça ajoute encore à l'impact important que Gallagher a eu dans cette équipe-là et qu'il aura encore vraisemblablement dans les années qui vont suivre.
Ben écoute, c'est le genre de joueur que tout à l'heure, Benjamin parle d'une statistique en disant qu'il n'est pas juste les statistiques, mais ça, c'en est une qui est vraiment importante.
ça résonne fort.
Ça résonne fort. Ton jeu à 5 contre 5, c'est toujours extrêmement puissant. Et pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que c'est difficile de marquer des buts. Et on le sait, Gallagher marque les buts là où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'avoir un bon niveau d'efficacité, c'est-à-dire dans l'enclave.
Oui.
C'est évident que des joueurs comme Gallagher, quand t'en as un, puis c'est pas le plus gros de tes joueurs, donc il devient rapidement un modèle pour les coéquipiers. Il impose le respect par justement l'ardeur au travail, par sa détermination, par des choses que c'est ses actions qui parlent et rien d'autre. Et ça, je pense que ça a une valeur inestimable pour le directeur général. Puis il a bien raison de considérer ça. Écoute, il a marqué depuis le début de sa carrière.
Ouais.
173 buts en 500 matchs, 547 matchs. Et sur ces buts-là, Martin, il y en a seulement 35 en avantage numérique.
Alors, c'est dire ses qualités. Et en termes de culture d'entreprise, Danny, ça aussi, c'est important. Gallagher, c'est un produit repêché, développé par le Canadien. On dira jamais assez souvent que c'est un choix de cinquième ronde que les autres équipes ont laissé passer. Il suffit, d'ailleurs, dans le point de presse, je lui ai proposé la question, Danny, parce que quand on va dans l'Ouest canadien, quand on va à Vancouver, comme il a joué son hockey junior avec les Giants, à chaque fois on rencontre des gens là-bas, même près de l'organisation des Canucks, qui nous disent « Mais comment on a pu laisser passer un joueur comme ça? » C'est encore pire à Edmonton parce que la famille Gallagher, le père et l'oncle de Brandon viennent d'Edmonton. Et là-bas, là, on en est malade complètement, comme ce fut le cas pendant nombre d'années ici à Montréal, quand on parlait de Simon Gagné puis de Patrick Bergeron, comment se fait-il que le Canadien les avait laissés passer? C'est la même chose quand on s'en va en Alberta. Et Danny, il y a une culture importante dans le fait que Gallagher signe avec le Canadien parce que c'est un produit de ton organisation, il établit des standards et quand les jeunes se font dire par le coach « tourne à droite, tourne à gauche », c'est une chose, mais ce qu'ils regardent, ce sont les vétérans et Gallagher peut très bien servir de modèle pour toute l'entreprise, toute l'organisation du Canadien.
Ah ben oui, puis comme on disait tout à l'heure, comme c'est pas un modèle au niveau physique, dans le sens modèle, ce que je veux dire, c'est il peut pas revendiquer, personne peut essayer d'expliquer son succès par autre chose que son ardeur au travail.
Exactement, et sa détermination.
Tout à fait, parce que c'est pas un gros joueur, tu sais, 5 pieds 9 pouces dans la Ligue nationale, jouer en avant, c'est aller devant le filet et tout ça, c'est vraiment dans le plus fort du terme, c'est un battant, c'est un vrai compétiteur et moi je pense que le Canadien a fait vraiment ce qu'il avait à faire. Maintenant, j'aimerais ça te parler aussi quand on va avoir 2 minutes,
oui.
Je sais, on a du temps là,
oui.
Mais je veux juste mettre la table parce que tu sais, Gallagher, c'est un joueur important pour le Canadien, mais je pense sincèrement qu'il y a des ingrédients qui font qu'il est encore plus efficace.
Et là, des ingrédients, c'est Philippe Danault. Puis dans la deuxième portion de cette première heure d'émission, on y reviendra. Puis j'ai préparé un petit tableau de comparaison, Danny. Un tableau comparatif, un peu le même genre d'exercice que Marc Bergevin et John Sedwick, son adjoint, peuvent faire quand ils se préparent à une négociation. Et le même exercice qu'a fait probablement Don Meehan, l'agent de Philippe Danault. On y reviendra. Établir les priorités. Gallagher nous a dit que c'est un exercice qu'il a fait rapidement. Et dans ses priorités, la priorité numéro un était bien sûr de gagner, mais en même temps, il voulait le faire avec le Canadien. On va l'écouter.
You know, you have to prioritize what's important to you. And for me, it was pretty much everything you just mentioned. I wanted to be a Montreal Canadian. I wanted to be a part of a team that's going to compete. And you wanted to have some security going forward, long term. And they were able to give me all those things. And I'm very fortunate to be able to remain a Montreal Canadian, but that was those were the exact thoughts that were going through my head as you're making those decisions on, you know, signing a contract to that length.
Alors, ce qui lui a passé par la tête dans sa réflexion, Danny, c'était la sécurité, s'associer à long terme à une organisation, mais dans une organisation qui avait la possibilité de gagner, d'avancer. Et visiblement, parce que dans la conversation qu'on a eue avec lui, il nous a livré plusieurs points. Il a parlé des quatre acquisitions, le Edmundson, Allen, Toffoli et Anderson, avec beaucoup d'éloges. Il a dit, écoute, il dit, je voudrais pas être l'équipe adverse quand ils vont analyser notre défensive là, avec Edmundson, Sherrod et Weber, il y a des équipes qui vont être moins confortables de jouer contre nous. Il a parlé de Allen et il a aussi parlé de Jeff Petrie. On se souvient que Petrie a dit, moi, avant de signer, j'ai appelé Gallagher. Ben, c'est sûr qu'ils se sont parlé, Danny, parce que Gallagher a insisté qu'en signant Petrie rapidement, pour lui, Marc Bergevin avait envoyé le message aux joueurs qu'il voulait gagner et qu'il voulait le faire dans un avenir immédiat.
Ben écoute, je suis pas surpris que les joueurs se parlent entre eux pour déterminer leur décision. Donc, et je pense que les directeurs généraux sont, de façon générale, doivent être assez, ou ils en sont conscients, mais doivent être assez sensibles à ça. Parce que des fois, t'es obligé de briser là, oui. T'es obligé de casser des œufs. Il y a des fois,
briser des amitiés.
C'est ça. Le joueur est aimé, mais toi, faut que tu passes à autre chose. T'es dans un virage et on a vu ça à Montréal, on le voit ailleurs, dans la Ligue nationale.
On l'a vu cette année dans le marché aussi, Danny, avec les réalités économiques. Ça pas
absolument. Avec les réalités économiques, c'est encore plus vrai. Donc, je pense que le Canadien ne fait pas exception à la règle. Les joueurs se parlent. Jeff Petrie, c'est un joueur important. Je pense que il y a aussi un groupe de joueurs qui viennent de l'Ouest canadien. Oui. Et Petrie semble se retrouver avec ce groupe-là.
Oui, parce que lui, vient de Détroit, là. Pas dans le même coin.
Pantoute. Mais il semble bien se retrouver dans ce groupe-là. C'est le groupe de leaders de l'équipe, évidemment. Gallagher en fait partie, Weber et Price. Et lui, je pense que dans ce groupe-là, il a trouvé sa place.
Écoute, il y a eu un élément quand même parce que on a eu chaud. On a eu chaud du côté du clan Gallagher quand on a annoncé que les négociations étaient rompues. On a peut-être eu chaud aussi du côté du Canadien parce que à peine 12 heures plus tard, les deux parties se parlaient, revenaient à la table, réglaient un différend et en arrivaient à un contrat. Et je vais vous dire une chose. Vous allez entendre les propos de Brandon Gallagher là-dessus et vous allez sentir que lui a vraiment eu peur d'être obligé de prendre la décision de jouer sa dernière année de contrat et de quitter Montréal.
It was hard, if I'm being honest, it was tough. It was really the first time since I've been a Montreal Canadian where that thought went through my head that I was going to have to make decisions coming up in my future whether I wanted to remain a Montreal Canadian, which was hard for me. It's the only team I've ever known. It was, you know, you really fall in love with everything about it. And I don't do well with change. So it wasn't something I was all that happy about and all that excited about. So, you know, it might have felt like a pretty short turnaround for everyone else. But for me, it felt like an eternity. And it was obviously nice to wake up the next day and, you know, have a little bit more positive news.
Il a eu peur, Danny. Il a eu peur parce qu'il a dit, quand je me suis réveillé le lendemain puis que les bonnes nouvelles sont arrivées, j'ai respiré. Il dit, pour une première fois de ma vie de joueur du Canadien, je me suis mis à penser que ça se pourrait que je doive quitter, ça se pourrait que je remette en cause l'idée de rester, de demeurer un Canadien de Montréal. Alors, c'est peut-être plus qu'une mésentente parce que Marc Bergevin a mentionné sur ce dossier-là qu'on n'avait pas eu la bonne information. Il n'a pas voulu aller dans les détails. Mais vous savez que moi, ce qu'on est un petit peu, hein. On finit toujours par creuser puis obtenir certaines informations. Et semble-t-il, Danny, que le dossier s'est gâté au moment où le Canadien et le clan Gallagher avaient franchi presque le terrain de football au complet. On était à la ligne de 15 à peu près. On était proche de la zone des buts. Et qu'est-ce qui arrive dans le dernier droit? Habituellement, on en a entendu parler. Souvent, Danny, c'est la fameuse clause non-échange qui se négocie à la toute fin. Quand on s'est entendu sur les années, ce qui avait été le cas, et le montant d'argent, là, ils étaient très près, à quelques centaines de milliers de dollars près, arrive le moment de la clause non-échange.
Et tout je à déteste coup, cette clause, Martin. Je déteste.
Ben oui, tu le dis souvent que ça devrait pas être dans la convention.
Ça ne devrait même pas exister, mais ça existe.
Ça existe et il fallait se mettre dans les culottes de Gallagher à partir du moment où tu renonces à l'autonomie et que tu restes avec ton équipe pour un contrat à long terme. Oui, il te paye bien et tout ça, mais tu veux assurer tes arrières. Alors, assurer tes arrières, c'est d'avoir cette fameuse clause où tu peux au moins fournir une liste d'équipes où tu veux pas aller jouer. Et là, tout à coup, semble-t-il que le Canadien n'était pas disposé à inclure la clause dans le contrat. Et c'est ce qui aurait envenimé le débat et c'est ce qui aurait fait en sorte que les négociations étaient rompues. Parce que semble-t-il que du côté du clan Gallagher, c'est devenu tellement émotif que, comme on vient d'entendre Brandon, dans les heures qui ont précédé la reprise des négos, ça aurait pu être un point pour faire avorter le dossier, Danny. En même temps, quand on se place du côté du joueur, on arrive assez bien à comprendre pourquoi ça prend d'importance, ces clauses-là, surtout pour un gars comme Gallagher dans le contexte de Montréal.
Ben là, écoute, honnêtement, je vois moins bien la résistance d'une clause de non-échange avec un joueur comme Gallagher. Honnêtement, je pourrais voir cette résistance avec des joueurs qui s'amènent à Montréal comme Anderson ou Toffoli, des joueurs des joueurs que tu connais moins.
Des joueurs que t'importes, là.
C'est ça. Alors, moi, dans le cas de... Écoute, je viens de la réfléchir en même temps que je te parle, là. Mais est-ce que la clause de non-échange ne pourrait pas simplement s'appliquer aux joueurs qui ont été repêchés et développés par une équipe? En d'autres mots, tu as le droit à cette clause-là si tu es dans un contexte où tu re-signes avec l'équipe qui t'a repêché, qui t'a développé. Après ça, là, ça devient, écoute, c'est devenu un boulet pour les organisations de composer avec ces éléments-là. Le refus des joueurs, oh, ben, j'irai pas là, moi ça me tente pas d'aller là. Moi je pense que... Et où, à la fin de cette... bon, mettons, si c'est un contrat de 6 ans, comme c'est le cas pour Gallagher, bon, il faudrait qu'à un certain pourcentage du contrat, rendu un certain temps du contrat, on pourrait que cette clause-là ne soit plus applicable. Donc, à la dernière année, l'avant-dernière année, si tu as 4 années sur 6 où t'es garanti, un truc comme ça pour au moins donner la latitude aux organisations d'avoir un petit peu plus de mouvement personnel, ce qui est devenu extrêmement difficile.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine en terminant là-dessus avant de passer à la pause. Ils ont eu à renouveler la convention collective de façon très urgente cet été pour garantir un retour et jouer les séries. Puis ils n'ont pas pensé d'inclure cet article-là où ils ont tenté de le négocier et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Comme ils le font pour les contrats individuels, on l'a laissé aux joueurs à la dernière minute. On sait trop, on ne saura peut-être jamais dans ce dossier-là. On va s'arrêter, Danny. Il y a maintenant un autre dossier chaud chez le Canadien, maintenant qu'on a fait des acquisitions, maintenant que les leaders Petrie et Gallagher sont réglés pour plusieurs années avec le Canadien, il reste Philippe Danault. Et Marc Bergevin a démontré un peu de dégagement dans le dossier de Philippe Danault. On va entendre les commentaires du directeur général et tes commentaires là-dessus, puis on va essayer de rentrer dans cette salle où il peut y avoir les négociations et établir quels sont les paramètres pour la valeur de Danault et ce que le Canadien correspond, est-ce que le Canadien croit comme étant une valeur juste pour Philippe Danault. C'est ce qu'on vous propose au retour de la pause. Vous écoutez Prolongation.
Vous Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Une division entièrement canadienne, le propriétaire des Golden Knights de Las Vegas a peut-être vendu la mèche. De toute façon, Danny, pendant les séries de fin de saison, tu avais eu certaines informations à l'effet que ce plan-là était sur la table. Ouais. Restez avec nous, mesdames, messieurs, parce que dans la deuxième heure, Danny, on va accueillir Ray Lalonde, notre collaborateur en marketing et en affaires de sport, va venir nous analyser ce que ça pourrait donner, ça, une division entièrement canadienne. Est-ce que la Ligue national pourrait tirer son épingle du jeu au niveau des revenus en pensant à une solution comme ça. En attendant, Danny, je dirais que le dernier dossier vraiment chaud chez le Canadien de Montréal, maintenant que Gallagher, Petrie ont été mis sous contrat et que les acquisitions externes sont complétées, c'est le dossier de Philippe Dano. Ouais. Est-ce qu'on doit comprendre, Danny, que dans le dégagement dont a fait preuve Marc Bergevin dans son point de presse de jeudi, quand il est venu le temps de parler du dossier Dano, serait une stratégie de négociation ou c'est vraiment l'attitude que le Canadien a par rapport au dossier de Philippe Dano?
Non, je pense que c'est vraiment une stratégie de négociation. Écoute, on peut pas lever le nez sur ce que Dano a fait au cours des dernières années avec le Canadien de Montréal. Depuis son arrivée avec le Canadien, c'est un joueur qui est extrêmement important. Et je tiens à le mentionner, là, c'est peut-être pas le plus grand marqueur, mais c'est un joueur extrêmement performant. C'est un gars qui amène des dimensions au Canadien de Montréal qui sont incontournable pour avoir du succès et dans les circonstances encore plus.
Danny, est-ce qu'on, quand on analyse le portrait de Philippe Dano, le fait que c'est pas un joueur comparativement peut-être à Nick Suzuki qui sera bientôt le centre numéro un du Canadien, je pense que ça personne le conteste. La différence c'est peut-être au niveau de marquer des buts, Danny, c'est-à-dire de finir le travail devant le filet, de prendre un lancer au moment où le gardien s'attend à une passe puis réussir à marquer un but. Est-ce que c'est pas le plus gros handicap de Philippe Dano quand on fait son portrait de joueur de hockey?
Ben c'est sûr que lorsqu'on regarde les statistiques de Philippe Dano, on voit que c'est vraiment ses qualités, c'est autour de fabriquer les jeux, faire produire les autres. C'est pas un marqueur de but naturel. Ça, la qualité de son tir, la proximité de ses tirs, c'est un gars qui travaille très près du filet. C'est un joueur aussi quand même qui est pas un format géant, là. Même si c'est 6 pieds 1, on dit 6 pieds 1, 200 livres. C'est pas un gros 200 livres, là. C'est pas un joueur qui joue pesant. C'est pas un joueur qui va frapper l'adversaire, etc. Le nombre de mises en échec. C'est un gars qui est vif, qui est dynamique, mais il fait produire les autres. Et tout à l'heure, je te parlais de l'importance qu'il a dans le jeu de Gallagher. C'est un joueur qui est très linéaire dans sa manière de jouer. Philippe Dano, là, il fait pas de frioriture avec la rondelle. Il prend la rondelle, il l'amène en zone neutre, il traverse de la ligne bleue à la ligne bleue. C'est lui qui amène la rondelle en zone adverse. Si tu donnes la rondelle à Gallagher en zone neutre, tu vas le ralentir. Et ça, c'est ce que Suzuki fait, c'est ce que Kotkaniemi fait, parce que c'est des joueurs qui, avec la rondelle, aiment distribuer la rondelle, mais pas la transporter. Tandis que Philippe Dano fait le contraire, lui. En zone neutre, il transporte la rondelle. Et j'ai des chiffres qui vont t'intéresser, Martin, parce que 45% des buts la dernière saison, les buts de Gallagher, 45%, donc 10 sur 22, sont directement reliés au fruit du travail de Philippe Dano. Ça veut dire qu'il est sur la feuille de match. Et ça compte pas les buts où il a touché à la rondelle, il est le troisième passeur, puis qu'il n'y a pas de point, mais qui a organisé le jeu en récupérant une rondelle ou en sortie de zone, etc. Donc, c'est un joueur qui est extrêmement performant dans ce département-là. Et c'est sûr que Gallagher, lui, à toutes les fois où on l'a utilisé avec d'autres joueurs,
ça a pas marché, Danny.
Ça a été moins concluant. Ça a peut-être marché un soir ou deux, là,
mais pas
sur une base aussi régulière et aussi récurrente qu'avec Philippe Dano.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Si Marc Bergevin avait l'air un peu dégagé, il y a peut-être une stratégie là-dedans, comme tu l'as mentionné, bien sûr, mais s'il avait l'air dégagé, quand on voit ce que Claude Julien fait avec Philippe Dano, puis de la façon dont il l'utilise abondamment, surtout quand il est obligé de défendre et que la mise en jeu se fait dans son territoire, puis que le match ou une période est sur la ligne, il n'y a pas de doute, là, Philippe Dano a des arguments de poids. Danny, quand le clan Dano établit le portrait de son joueur, on fait un peu le même genre d'exercice que tu viens de faire. C'est-à-dire que on établit certaines statistiques, on établit des normes, on dit voici dans quel département mon client est bon, voici ce qu'on devrait faire valoir à l'équipe qui est devant nous pour essayer d'aller chercher le meilleur contrat possible. Je peux te dire une affaire. Quand on dit que 45% des buts de Gallagher sont l'œuvre du travail de Dano et qu'à 5 contre 5, Danny, j'étais quand même assez surpris de le constater, Philippe Dano est le cinquième meilleur attaquant de la Ligue nationale à 5 contre 5. J'ai été complètement renversé quand on m'a indiqué ça.
Ben moi, j'ai pas cette statistique, mais j'en ai une assez similaire qui va t'intéresser. Philippe Dano a 159 points à 5 contre 5, il y en a marqué 175 en carrière, il y en a 159 à 5 contre 5. C'est 47% de sa production en 339 matchs. C'est-à-dire c'est 0.49 0.47 points par match à 5 contre 5 et Gallagher est à 0.49. Alors, tout à l'heure, tu nous as fait état de, en nous faisant écouter Marc Bergevin, tu nous as fait état du respect que
Bergevin, travail de Gallagher, ouais.
Du respect que Bergevin avait pour le travail de Gallagher à 5 contre 5 en disant à quel point c'est difficile de marquer des buts à 5 contre 5. Mais ces buts-là, là, ces points-là que tu vas chercher, ça te prend un gars qui te la donne, la rondelle. Parce que lui, il marque ses buts en avant du filet. Donc, il peut pas aller chercher la rondelle puis la ramener devant le filet. Le gars qui fait ce jeu-là, c'est Dano. C'est la raison pour laquelle il y a 45% de la production offensive en termes de buts qui vient de la palette de Dano, sans compter les autres situations, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est étroitement relié. Ça rend le dossier très, très difficile. Et je complète ma réflexion, Martin, en te disant que Philippe Dano a 27 ans. Et ensuite, là, il y a un trou béant. Parce qu'après ça, c'est des joueurs de 21 et de 20 ans.
Et qui ont parce à peu près pas prouvé dans la Ligue nationale, là, à part Suzuki.
Ben, Suzuki est moins 15 quand même sa première saison dans la Ligue nationale. Ouais. Keke est moins 11 actuellement là dans la Ligue nationale. C'est sûr que sa première saison est plus 1, mais sa deuxième, il est moins 11. Au total, en carrière, il est moins 10. Peeling a joué 28 matchs dans la Ligue nationale et il ne domine pas dans la Ligue américaine et il joue à l'aile plus souvent qu'autrement.
Ouais.
Donc, je comprends Marc Bergevin qui va pas quand même pas étaler toutes ses cartes sur la place publique.
On va l'entendre dans les prochaines secondes d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais moi, je tiens à mentionner que quand je regarde le portrait de l'équipe, les acquisitions qui ont été faites, c'est presque un incontournable de trouver une façon de s'entendre avec Philippe Dano. Maintenant, oui, il y a des chiffres et oui, il y a une petite guéguerre qui s'installe sur le plan des négociations.
Voici Marc Bergevin, cette déclaration un peu surprenante, lorsque je lui demandais si la nécessité d'avoir Dano pour protéger l'équilibre qui a été tant difficile à bâtir sur la ligne de centre n'était pas en jeu dans ces négociations-là.
Oui, écoute, c'est certain que Philippe, c'est un bon joueur pour nous, puis c'est certain qu'on va voir ce qui va se passer dans la prochaine saison, mais aussi on a de la profondeur, on a repêché un Ryan Poehling, c'est un joueur de centre, un Jake Evans, c'est un joueur de centre, alors... Écoute, à la fin de la journée, de ce côté-là, je pense qu'éventuellement, on va être en bonne position. Mais encore là, on est fiers, on est contents, mais on va voir ce que l'avenir va apporter. Écoute, il y a des décisions à prendre à tous les niveaux.
Je me trompe-tu? J'ai-tu une mauvaise perception ou t'es moins pressé avec Dano ou si t'as des pourparlers préliminaires qui ont peut-être pas donné ce que tu voulais?
Martin, encore là, je veux pas embarquer les négociations de contrat. Je le ferai pas aujourd'hui. Je l'ai pas fait la semaine passée. Je le ferai pas dans une semaine. Alors, on va garder ça comme ça pour l'instant.
Ouais. Alors ça, c'est le bout peut-être de négociation, Danny. Puis un peu plus tard, en anglais, il a pris quelques minutes pour raconter qu'à l'époque de Chicago, c'est lui-même, Marc Bergevin, qui avait poussé pour que les Blackhawks repêchent Dano en première ronde. Il nous a expliqué qu'entre autres, les Hawks avaient le 17e choix cette année-là et que Marc Bergevin voulait s'assurer que les Hawks prennent Dano au 17e rang. Mais les Hawks ont eu la chance d'attendre un peu plus longtemps, de repêcher un autre joueur et d'attendre un peu plus longtemps pour se servir d'un choix de fin de première ronde pour prendre Dano. Ça, c'est vrai.
Ouais.
Ça, c'est clair. Là, en tout cas, ça a été vérifié. C'est vrai. Mais bien évidemment, on peut se questionner sur ce fameux dégagement. Même si Marc Bergevin Bergevin a été un ardent défenseur et qu'il a inclus la condition pour obtenir Philippe Dano avec Chicago dans la transaction Fleischmann et Dale Weiss. Il reste que son attitude de dégagement à l'heure actuelle nous laisse un peu perplexe. Tu as parlé de Gallagher tantôt et tu disais que 45% de ses buts ont été l'œuvre du travail de Dano. Gallagher avait pas cette statistique-là, Danny, mais je peux te dire que dans les phrases que vous allez entendre concernant son joueur de centre, il n'y a pas d'équivoque.
Speaking personally, how much Phil's been able to help me has been tremendous. You know, he's such a smart player. We talk about it all the time, but I really think it is undervalued. Just his, you know, his brain, how well he thinks the game. Very competitive, good player. Wants to win at all costs. And for him to be up putting all those different situations that we use him in, you know, it's hard to ask anyone else to do that. So to put a He's definitely helped me out a tremendous amount.
Je comprends qu'il m'a aidé. Et Danny aussi, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est ce que Gallagher met en perspective. Sauf que ça, c'est peut-être difficile de mettre des chiffres là-dessus. C'est son ardeur de voir le Canadien avoir du succès, son implication dans les victoires du Canadien. Puis l'autre chose aussi, c'est ce que Philippe Dano accepte de faire pour l'entreprise quand le coach lui demande de faire des choses et que ça va peut-être un peu au détriment de sa production en attaque où là, il va faire des sacrifices pour défendre, pour être un joueur sur qui Claude Julien peut compter. Ce sont ces affaires-là qui deviennent un peu difficiles à mesurer. Parlant de mesure, Danny, j'en ai pris quelques-unes parce que comme les agents travaillent avec des comparatifs, on va essayer d'en faire un petit peu puis je veux entendre ton opinion là-dessus. Philippe Dano empoche un peu plus de 3 millions de dollars annuellement. C'est le contrat qui termine au moment où on se parle. La dernière saison, c'est 47 points, dont 13 buts. Il s'est rendu à 71 matchs. On peut penser là, qu'il aurait flirté avec les 50 points. Si on exclut la moyenne, l'année où il a été quand même blessé sérieusement, on s'en souvient, là, si on exclut cette saison-là, sa moyenne à trois saisons, c'est 46 points, Danny. Ça, c'est la moyenne de production pour Dano au cours de trois de ses quatre dernières saisons. Si on s'en va dans le marché maintenant, Jean-Gabriel Pageau a une moyenne assez semblable à celle de Philippe Dano, même si l'année passée, il a réussi un sommet personnel de 28 buts. Il a une moyenne de production de 41 points. Jean-Gabriel Pageau vient de signer un contrat de 30 millions de dollars pour 6 ans, c'est-à-dire 5 millions de dollars par année. Il est le cinquième mieux payé chez les Islanders de New York. Vincent Trocheck a des statistiques à peu près semblables à celles de Philippe Dano. La moyenne de Vincent Trocheck au cours des dernières années, on parle d'une moyenne de 38 points. Vincent Trocheck aussi, on a soustrait la saison où il a été blessé gravement. 38 points, il est dans sa moyenne pour sa dernière production. J'ai pris également Paul Stastny parce que la moyenne de Stastny est semblable à celle de Philippe Dano, Danny, puis Stastny, on parle quand même pas d'un 2 de pique, là. C'est 44 points dans le cas de Paul Stastny au cours de ses trois dernières saisons, dont 38 la saison dernière, et il empoche un salaire de 6,5 millions de dollars. Qu'en penses-tu de ces fameuses comparaisons?
Ben écoute, le jeu des comparaisons, c'est toujours un peu dangereux parce que, bon, moi je regarde beaucoup l'entourage, je regarde comment le joueur a produit dans son propre environnement, avec qui il jouait, tout ça, parce que, mais une chose est claire, c'est que les joueurs que tu as ressortis, les joueurs que tu as mis en perspective, c'est les joueurs qui ont des traits communs avec Philippe oui. Dano pour les mises en jeu, pour la façon dont ils travaillent dans le territoire, dans leur niveau de fiabilité, etc.
Leur intelligence au jeu et tout, là.
Exactement. Ouais. Comment tous les petits détails à lesquels tout à l'heure Gallagher faisait allusion. Et ça, ben, je pense que tu peux pas exclure cette partie de l'équation-là quand tu regardes le joueur et tu dis OK, lui, là, il a joué plus particulièrement au cours des deux dernières années avec Gallagher. Au cours des deux dernières années, Gallagher s'est établi comme un marqueur de 30 buts dans la Ligue nationale. Au cours des deux dernières années, c'est 31 et 33 buts pour Gallagher. Et au cours des deux dernières années, c'est respectivement 41 et 34 passes pour Philippe Dano. C'est 53% et plus de mise en jeu gagnée pour Philippe Dano. Donc, il y a quand même des éléments. Et là, il y a des statistiques qu'on n'a pas, nous, accès à lesquels on n'a pas accès, mais je veux quand même partager ça avec nos auditeurs, c'est que il y a des situations de récupération de rondelles.
Dans oui, ça, c'est important.
Et Philippe Dano est extraordinaire dans ces situations-là, en espace restreint. Et au-delà des chiffres que les différents sites de statistiques avancées nous produisent, moi, je prends la peine de le dire, là, on en fait état quotidiennement dans les reportages, à quel point il utilise son bâton, couper des jeux, couper des passes, récupérer des rondelles, soutirer la rondelle à l'adversaire.
Ce qui est aussi très important. Là.
Ce qui est fondamental dans le jeu d'un joueur de centre. Et donc, oui, c'est vrai que c'est pas un marqueur prolifique et ça va le placer dans une catégorie qui est en dessous des joueurs comme les Bergeron et compagnie qui sont reconnus pour l'excellence de leur jeu défensif et qui va peut-être permettre à Suzuki d'atteindre ce niveau-là un jour parce que c'est un joueur aussi extrêmement intelligent, vigoureux, tenace, qui se place bien, qui utilise toutes les facettes. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, Martin, puis je complète là-dessus, c'est que...
Oui, rapidement.
C'est le succès de Gallagher est directement relié à l'excellence du jeu de Dano et ça, le directeur général ne peut pas en faire fi.
On va s'arrêter pour quelques messages. Au retour, on va aller voir l'échelle salariale du Canadien de Montréal et on va essayer de placer Dano dans cette échelle salariale parce que, qu'on le veuille ou non, c'est important. Et on va parler également de la prolongation de contrat qui a été offert au gardien Jake Allen. Vous écoutez, prolongation, bon samedi.
Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Ah, il y a eu des nouvelles importantes au Québec cette semaine, Danny. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a mis fin à ses activités en raison de prolifération de cas de COVID dans certaines équipes, dont l'Armada de Blainville-Boisbriand. On va effleurer le sujet tous les deux un petit peu plus tard dans l'émission parce que, évidemment, ça a des impacts importants. La ministre Isabelle Charest qui a quand même délié les cordons de la bourse pour aider les clubs de la LHJMQ. C'est une subvention $1 million qui sera donnée à chacun des clubs pour payer des factures courantes puisqu'actuellement, ils ne pourront pas poursuivre leurs activités. À venir également dans l'émission, Ray Lalonde et cette histoire de la division entièrement canadienne. Danny, quand on regarde ce qu'un joueur vaut à l'intérieur d'un marché pour une signature de contrat, ce qu'on a fait comme exercice avec Philippe Dano au niveau des comparatifs, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'échelle salariale de l'équipe. À quel endroit on peut placer Philippe Dano? Gallagher est maintenant où sera le mieux payé après la prochaine saison à 6,5. Ensuite, Josh Anderson, Jonathan Drouin à 5,5, Tatar qui est en fin de contrat à 4,8 et Toffoli qui vient d'arriver à 4,2. Alors, avec Philippe Dano, je viens de vous donner le top 6 du Canadien de Montréal. Mmh. Il est où, Philippe, dans cette échelle salariale, Danny?
Ah, mais écoute... il y a plusieurs tu parlais tout à l'heure de tes comparables avant la pause alors
Stastny, Trocheck,
tu parles Bajo. De là c'est donc on mettons le prix plancher on parle de 5 millions.
Si et c'est Pajot, c'est 5 millions.
C'est 5 millions, c'est un prix plancher, je pense et ce que ça veut dire c'est que aller en bas de ça c'est je pense que c'est pas réaliste. Et ça peut aller jusqu'à 6,5 millions si on parle de Stastny. Et honnêtement, je serais tendance à aller plus près de Stastny que de Pajot. Je trouve que Philippe Dano, un, est un meilleur patineur que ces deux gars-là. C'est un joueur qui est plus actif au niveau de l'utilisation de toutes ses qualités, en défensive particulièrement. Par contre, c'est sûr que Pajot amène une dimension sur l'avantage numérique que Philippe Dano n'a pas. Mais si je regarde le contexte...
Il s'est avéré un meilleur compteur, Danny, que Dano au cours de la dernière année. Puis il y a peut-être l'élément agressivité dans le jeu de Pajot qui est plus important que celui de Philippe aussi.
En fait, qui est différent.
Ouais, OK.
Tu sais, parce que moi, l'intensité, l'agressivité, c'était un... Ça, je regarde... j'adore Jean-Gabriel Pajot, là. C'est un très, très bon joueur. Puis je suis pas en train de faire... De démolir un pour bâtir l'autre.
Non.
Là. Je pense pas que c'est
non,
comme
c'est
ça que ça fonctionne.
Non, c'est pas ce qu'on fait non plus. Non.
Mais je regarde ce que Philippe Dano apporte, puis il y a un contexte, hein. Philippe Dano est dans une situation où il est le vétéran de cette formation-là.
Oui.
Et... Je pense que c'est un peu un incontournable qu'on ait un joueur sur qui on peut compter dans les situations corsées de match.
Absolument.
Et Si on veut avoir Philippe Danault pour plusieurs années, je pense pas qu'on peut lui offrir 5. Je pense que ce serait exagéré de lui offrir 6.5. Je pense que l'espèce de ligne médiane est entre les deux. Est-ce que c'est, est-ce que c'est autour de 6? C'est beaucoup d'argent pour un joueur qui marque pas 20 buts par année.
Exactement. Ça, c'est un des arguments qui va être avancé, Danny.
Et là, ça devient une question de priorité. Tu sais, à un moment donné, là, tu dois prioriser. On a eu le même débat avec Gallagher pour d'autres raisons en disant si on lui donne un long contrat, c'est un joueur qui est pas très costaud, c'est pas un patineur
pourrait explosif, se blesser tout ça pourrait,
mais c'est tellement un joueur important chez le Canadien qu'à un moment donné il y a des situations où on doit vraiment se camper, et je pense que Philippe Danault fait partie de ce groupe là et ça va nécessiter de la gymnastique pour le directeur général.
Mais l'argument, Danny, l'argument qu'on entend de la bouche de Marc Bergevin quand on entend l'extrait qu'on a fait jouer tout à l'heure dans le bloc précédent de l'émission, c'est que l'émergence de Kotkaniemi va reléguer Danault à un rang de troisième centre. Moi, j'ai de la misère avec celle-là parce que j'ai bien l'impression que dans les deux prochaines années, quand le match va être sur la ligne, comme on a dit tout à l'heure, Danault va passer encore devant Kotkaniemi en autant que je suis concerné.
Ben là, on parle, il y a un seul joueur pour l'instant qui est une valeur sûre ou à la position de centre, et c'est Philippe Danault.
Ouais.
Les autres, on est tous conscients qu'ils ont beaucoup de talent, mais on n'est pas encore rendu à avoir des joueurs établis dans la Ligue nationale. Nick Suzuki, c'est une recrue. Kotkaniemi également, qui a eu sa part de difficultés, qui a terminé la saison dans la Ligue américaine. Et il faut pas prendre une lecture de ce qui s'est passé en série cette année comme étant quelque chose de représentatif. C'est une situation exceptionnelle.
Et c'est 6 bons matchs pour Jesperi Kotkaniemi en série, là, quand même, là, un très long séjour dans la Ligue américaine. On verra bien comment ce dossier-là va débloquer. Moi, Danny, j'ai pas l'impression que les vacances de Marc Bergevin vont être très longues, là. Je pense que, un peu comme ce fut le cas pour Gallagher, ça va peut-être prendre plus que 12 heures, là, mais j'ai l'impression que les deux parties vont revenir à la table assez rapidement. Puis là, on verra bien. Est-ce que Philippe Danault devra jouer sa dernière année de contrat ou si on va être capable de s'entendre avant? Faut dire que même s'il joue sa dernière année de contrat, la beauté, c'est qu'il y aura possibilité de s'entendre. Sauf que là, il y a peut-être un peu de vaisselle qui va avoir été cassée. Et ça, faut absolument éviter ça avec un joueur aussi important que Danault. Je pense qu'on en a fait la démonstration. Danny, nous reste quelques instants à peine pour parler de Jake Allen. Son contrat a été prolongé. Allen va empocher 2,8 millions à compter de l'année prochaine, parce que cette année, c'est 4,3, et l'autre année suivante. Ça couvre le Canadien pour le repêchage d'expansion, mais la dernière affaire que je souhaite aux Canadiens, c'est que les gens de Seattle viennent chercher Allen, parce qu'ils ont besoin de Allen pour protéger Carey Price et aller chercher des victoires pour au moins une vingtaine de départs par année minimum.
Oui, puis en acceptant un contrat à 2,9, c'est quand même ça envoie le message que Jake Allen accepte ce qui est en train de se produire dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il y a une décroissance, il devient un gardien de but de réserve, mais de qualité. Et je pense que ça va aider le Canadien, parce que souvent, quand tu as un gardien de but qui essaie de se profiler comme numéro 1, c'est pas nécessairement la bonne situation. Puis souvent, tu te retrouves à être coincé avec un joueur qui est numéro 2, mais pas assez bon. Là, on a vraiment un ancien numéro 1 qui devient numéro 2 de par son âge, la force des choses, surtout, là. Et moi, je pense que ça va aider énormément le Canadien, tout comme tu le mentionnais.
Alors, dans les prochains instants, notre ami Ray Lalonde va se joindre à nous. Une division 100% canadienne, c'est peut-être ce qui nous attend pour le début des activités de la LNH, la reprise des hostilités en 2021. On va mesurer les impacts marketing et financiers d'une décision comme celle-là avec Ray. Entre autres, restez des nôtres, c'est Prolongation qui se poursuit après ces messages.